Bonjour et bienvenue à cette émission de ce jeudi 18 février. Fulgence Blanc au micro avec...
Et Arlette Farah. Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette. Et là, voilà, tu m'as fait rire parce que j'attendais à ce que le micro soit ouvert avant de commencer à parler. Je ne voyais pas la lumière.
Alors,
tu peux bien rire toi.
Aujourd'hui, on va continuer dans l'histoire à travers le mois de l'histoire des Noirs.
Oui, ça continue jusqu'à la fin du mois.
Donc, en première partie d'émission, on va dire, je vais en parler avec... nous allons en parler avec Denis Martin Chabot, qui est auteur, journaliste, et qui va nous parler des personnes noires à Fierté Canada à travers l'histoire de Steve Bastien, qui est acteur et intervenant scolaire. Alors, on en parle dans un instant. Et ensuite, on continue.
On continue en deuxième partie d'émission. On va recevoir Laurent Maurice Lafontaine, qui est président de la Fondation Massi Madi pour le 13e Festival des films et des arts LGBT+ Afro-Montréal. C'est dans le cadre toujours du mois de l'histoire des Noirs.
Oui.
Et ce festival, c'est le 13e festival. Bon, ben, les détails un peu plus tard. Là, alors, avant d'aller tout ça dans les détails, on va en musique. Arlette ?
On part en musique avec Burna Boy qui nous chante On the Low.
Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no certainty when you carry 50 kilos on body. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby, whine upon me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Angelina, Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, I'm a Angelina. Oh no, so when I want to come out, I can signal you. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put a ring on your finger too.
Alors, Denis Martin Chabot, bonjour.
Bonjour, Arlette.
Bonjour, Denis Martin Chabot.
Bonjour, Fulgence.
Alors, avec Fulgence, tout à l'heure, on en parlait, on va parler avec deux interlocuteurs différents, donc de l'histoire du mois des Noirs.
Oui.
Et toi, de ton côté, pour souligner l'événement, donc tu nous proposes de parler de cette histoire. Alors, toi, ton regard, c'est justement à travers les yeux d'une personne noire que tu as rencontrée par Zoom et qui s'appelle Steve Bastien, qui est comédien, intervenant scolaire et ambassadeur du caucus des personnes noires de couleur au sein de Fierté Canada, l'organisme qui recouvre qui regroupe toutes les fiertés d'un bout à l'autre du Canada.
Tout à fait. Puis pour vous rafraîchir la mémoire, tout le monde, Steve Bastien, pour ceux qui regardaient la série télévisée 30 vies à Radio-Canada en 2016, il jouait le rôle du redoutable caïd Jean-Baptiste J.B.
Ah, ben moi je l'ai suivi, là, alors.
Puis quand je l'ai rencontré, en fait, je me disais...
Sa tête me dit quelque chose.
Oui, puis il était tellement vilain dans ce rôle-là, imaginez-vous. Ben, disons que c'était pas du tout ce que je m'attendais, parce que, évidemment, j'avais pas tout à fait le goût de le rencontrer. Je me disais, mais ça, qui est méchant, mais bon, on sait que c'est du théâtre, c'est de la télévision. Et sérieusement, là, je dois le dire, Arlette, je connais Steve depuis maintenant au moins 5 ans. J'ai fait du théâtre avec lui. C'est un grand gaillard de 6 pieds 2 pouces, costaud et tout, mais ah oui, il est doux comme du velours. Il est tellement gentil.
Souvent, les grands costauds, des fois, sont les plus gentils.
Ben, comme ça. Alors, Steve est venu au monde dans les années 70 de parents haïtiens immigrants au Canada. Il a grandi dans la région de Montréal. Puis, fait que là, je lui ai posé la question, comment c'était de grandir à Montréal quand on est une personne noire dans les années 80, 70 et 80? Fait qu'on l'écoute là-dessus.
Allez, d'accord.
Mes parents, dont ma maman particulièrement, en fait, elle nous a partagé l'estime de soi, a fait en sorte que nous ayons de l'estime de soi, tout en étant conscient aussi que certaines personnes avaient des préjugés. Mais j'étais d'abord Steve Bastien, d'origine haïtienne, le fils de Micheline et de Gérald, dans une école primaire où il y avait très peu d'enfants noirs, mais j'étais d'abord un enfant qui allait à l'école primaire. Cependant, ma mère m'a dit quand même très petit de porter attention à mon apparence physique parce que ça ne serait pas vu de la même chose. L'exemple était, Steve, est toujours des Kleenex sur toi parce que le jour où ton nez va couler et que tu n'auras pas de Kleenex et que tu auras ce qui vient avec, ben les gens risquent de ne pas dire c'est Steve qui a besoin d'un Kleenex. Ils vont dire le petit noir Steve est peut-être malpropre ou etc. C'est un exemple frappant, mais qui m'a marqué parce que encore aujourd'hui, j'ai toujours des Kleenex, des mouchoirs sur moi. Mais sinon, il n'y a pas eu... J'ai des amis dont les parents ont dit qu'ils devaient être meilleurs, qu'ils devaient faire plus d'efforts, qu'ils devaient... Pas chez moi. On m'a dit de faire mon meilleur, d'être le meilleur que moi j'ai envie d'être, mais c'est ça, l'estime de soi, l'équité, le respect de l'individu, le plaisir, l'éducation ont été des valeurs qui m'ont été inculquées très jeune. Comme je suis grand et que je mesure un peu plus de 6 pieds 2, le fait que je marche et que je sois grand et que ça puisse faire peur à des personnes, dont des femmes et des personnes âgées, quand je sortais des métros, quand il faisait noir et tout. Donc, c'est un peu là que j'ai pris conscience que, il y a des gens qui peuvent avoir peur de moi ou être craintifs et craintives parce que je suis non seulement grand, mais grand à la peau noire. Pour moi, ça a été un choc, un peu révoltant. Et en même temps, j'étais pris entre les deux, faire attention à l'autre, mais en même temps, me respecter là-dedans.
Eh ben oui, en effet, 6 pieds 2.
Hein. Oh, 6 pieds 2. Mais en fait, j'écoute ça, puis moi aussi, ça me révolte, Arlette, parce que moi aussi, je fais 6 pieds 2. Bon, je suis peut-être pas aussi costaud que Steve, mais quand
oui,
même, je peux être
non,
impressionnant.
Mais pour l'avoir vu dans le feuilleton, je peux te dire que non, t'es pas aussi costaud.
Non, mais je suis à côté de Steve. Mais sérieusement, le soir, je n'ai pas à craindre de faire peur à quelqu'un.
Oui.
C'est pas quelque chose qu'une personne à la peau blanche va avoir à penser.
Oui, parce que tu fais partie de la majorité.
Oui,
tout à
c'est
fait.
Ça.
Mais moi, je trouve ça révoltant. Puis en fait, il y a des choses avec lesquelles aussi je comprends parce que, tu sais, Arlette, moi, je suis un homme gay, ouvertement gay, et je me suis toujours dit, pour réussir, si je veux qu'on me fasse confiance et qu'on m'apprécie, j'avais l'impression que j'en fasse 10 fois plus que les autres. Puis quand j'entends ça, je dis, mon Dieu, c'est pas plus simple, hein?
Mais, non, parce qu'il a quand même... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est... En plus d'être costaud, d'être grand, d'avoir la peau noire, il grandit, il est gay, donc Ça n'a pas dû être facile, facile pour lui encore
non.
plus.
Non, puis je sais, nous, quand on regarde de l'extérieur, hein, les personnes à la peau blanche, quand on regarde de l'extérieur, puis on est la majorité, puis c'est sûr que c'est comme c'est toujours plus grave quand c'est dans la minorité ou dans un autre groupe oui. qu'il y a des homophobes. Mais Steve me dit, puis je suis d'accord avec lui là-dessus, il n'y a pas plus d'homophobes dans les communautés des personnes noires ou de couleur que les autres communautés ou les, surtout les communautés blanches. Mais c'est parce que lorsqu'on ajoute des couches de différence sur une même personne, ben c'est pas, ça ne simplifie pas les choses. Steve n'a pas honte de sa sexualité, mais quand on l'écoute parler de l'homosexualité d'hier et d'aujourd'hui, ben ça fait
ça donne ça.
Un regard différent. On l'écoute.
Je crois que ça a évolué de part et d'autre. Je crois que oui, il y en a au sein des communautés noires, culturellement, religieusement, l'histoire d'immigration aussi, le parcours d'immigration peut jouer. Quand est-ce qu'on est parti, dans quelles conditions, quand est-ce qu'on arrive, comment on veut s'intégrer, comment on veut que nos enfants fassent partie de la communauté québécoise et canadienne. Donc oui, il peut y en avoir. Il y a des préjugés dans plusieurs communautés culturelles. Mais je ne veux pas qu'on minimise qu'il y en a encore beaucoup au Québec, à Montréal, à Chicoutimi, en Abitibi et ailleurs, et partout à travers le Canada aussi. Et peut-être qu'on en parle moins, peut-être que c'est caché, mais il y a encore des personnes homosexuelles, trans, bi et de la communauté arc-en-ciel qui se font tabasser presque tous les jours, qui vivent des actes criminels, et je ne crois pas que ce soit majoritairement des personnes noires. Donc, tout ça pour te dire que l'homophobie, selon moi, l'homophobie n'a pas de couleur. C'est sûr que moi, mon expérience, je travaille dans un cégep de la banlieue nord de Montréal, où 97 % des jeunes sont blancs francophones, et une minorité, de plus en plus par contre, mais il y a encore une minorité de jeunes issus de l'immigration. Et donc, mon regard est un peu biaisé, quoique j'ai des jeunes dans mon entourage, des neveux, des nièces, des petits cousins, petites cousines. Donc, premièrement, cette génération-là de jeunes de 17 à peut-être 25 ans, selon moi, est beaucoup plus ouverte et s'adapte, s'affirme en général plus vite et plus facilement que la mienne et que la tienne. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail fait en amont, hein, dans l'éducation, dans la revendication. Donc, les jeunes ne partent pas à la même place, et quelle que soit la couleur. Maintenant, les jeunes issus des communautés noires, j'en ai reçu dans mon bureau quelques fois et qui m'ont révélé être homosexuel, bi ou se poser la question. Je crois que d'avoir en toute humilité, le fait que je sois moi-même noir et ouvertement homosexuel au travail, ça peut aider. Je crois qu'on n'a pas assez de modèles, entre guillemets, ou de gens inspirants. C'était comme ça quand moi, j'avais 20 ans dans les années 90, et c'est encore, malheureusement, un peu moins aux États-Unis. Il y a beaucoup de modèles. Je crois qu'il y a plus de modèles à la télé, sur Netflix, etc. Dieu merci. La télé québécoise et canadienne, pas encore. Et c'est beaucoup là que les jeunes vont prendre leur modèle, mais heureusement, ils en ont sur les médias sociaux. Pas toujours bons, mais il y en a aussi qui sont bons. Donc, quand je pose la question et que je fouille, autant chez les jeunes qui s'identifient hétérosexuels ou cisgenres, et que ceux qui sont en train de vivre leur processus de coming out, il y a non seulement un ami, un oncle, un voisin, mais aussi les personnages ou les gens que je vois sur des chaînes YouTube, des balados que j'écoute, des personnages de la télé sur Netflix, pour ne pas la nommer. Fait que je dis, ah, on est présent.
Alors, quand on entend ça, on se dit que même en 2021, c'est pas toujours simple d'être une personne des minorités sexuelles ou d'identité ou d'expression de genre différent. Avant qu'on en parle ensemble, on fait une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après avec toi, d'accord?
D'accord.
À tout de suite.
Eugène Mustapha.
Michel Urgent.
Benito Madison. Moveset. Ils ont cru que l'amour n'existait pas. On les a montrés.
que c'est des larmes. Et non qu'elle en passe.
Aminata, on tourne les reins. Aminata, on se touche les cœurs. On tourne, 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 tourne. On tourne, 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 tourne. Aminata, t'as mon âme. Aminata, tu brises les cœurs. Je roule, 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 roule. Je roule, 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 roule. Quand je vois toi, je vais sans roi. Pour ma kanga, d'injoutou. Tu limites mes sens et maman, le qui amour. La tanga soy tonino, mi kuma de tonino. Yaka moana, yaka, yaka kaka, yaka. Aminata, on tourne les reins. Aminata, on se touche les cœurs. On tourne, 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 tourne. On tourne, 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 tourne. Et mon cœur de la doga. Kota kaka, wana, yaka kaka, yaka, yaka. Kota kaka, wana, wana, yaka kaka, yaka. Yaka, j'en suis pas de nous. Yaka, Kevin Sama, yaka, Devin Lola, yaka, Mariam Nusenge, yaka, Solène Bike.
On vient d'entendre Benito Madison qui nous chantait Aminata. Alors Denis Martin, parlons un petit peu de l'homophobie en 2021 après ce qu'on vient d'entendre. Pas, je parle pas de la chanson, je parle de l'entrevue de Steve Bastien.
Ben, effectivement, ce que je trouve intéressant, on souligne des choses qui m'interpellent. Steve va nous dire, ben écoute Denis, pour un jeune homme noir, de peau noire, homosexuel, il ne trouve pas vraiment de modèle. Imagine de toute façon, une jeune personne noire ne trouve pas beaucoup de modèles dans notre télévision et dans notre monde artistique. Il y en a plus qu'avant, mais c'est encore très fragmentaire, très petit. Alors imagine en plus de ça, de trouver un modèle... Oui. De noirs qui s'adonnent à être homosexuels ou lesbiennes ou trans, oh là là, on a encore du chemin à faire. Et c'est parce que dans notre monde, évidemment, ce qui aide souvent des jeunes à se sortir de parfois d'une impasse au niveau psychologique parce qu'on n'accepte pas qui on est, ben si on n'a pas de modèle à regarder, à vouloir émuler, ben ça ne nous aide pas. Moi, je peux dire que moi qui aurai bientôt 60 ans, quand je regarde ma jeunesse, quand je suis à 14 ans, je n'ai pas le goût d'être gay parce que je ne connaissais pas des gens qui avaient une bonne vie ou qui faisaient des choses en tant que personne qui se donnait à être gay. Alors, je peux me mettre maintenant dans la peau d'une jeune personne noire qui vit cette même situation-là. Il n'y en a pas beaucoup du moins.
Hein, c'est vrai.
Ça aide pas. Et puis l'homophobie, on va arrêter de se dire « tout va bien au Québec », c'est pas vrai. Dites ça à des jeunes qui vivent dans les cours d'école à se faire traiter de tapette à la journée longue parce qu'ils sont moindrement efféminés ou qu'ils se font traiter de tous les noms, qu'ils se font harceler. Et ça existe encore dans nos cours d'école et ça existe à Montréal aussi. Et puis, c'est pas une histoire de d'immigrants. Puis non, nos petits blancs québécois sont exactement comme ça aussi. Alors, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. On a encore beaucoup de travail à faire.
De choses à faire. Et là, on est dans l'histoire du mois des Noirs. Là.
Le
mois de l'histoire des Noirs, pour le mettre comme il faut. Est-ce que, Steve, ça l'interpelle?
Oui, ben, comme pour beaucoup de personnes noires, Steve croit que ce mois est plus pour les personnes blanches qui trop souvent oublient.
Oui, je suis d'accord avec lui.
Pour les personnes noires. Hein?
Oui.
Comme le fait qu'une personne noire était En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y avait une personne noire qui venait avec Samuel de Champlain dans les années 500, dans les voyages de Samuel de Champlain et Pierre Dugas-Demont. Hein, il s'appelait...
Mathieu d'Acosta.
Oui, c'est ça, Mathieu d'Acosta. Alors, moi, quand les gens regardent les gens, des personnes noires en disant que c'est des immigrants récents, ben non, il y en avait qui sont venus au début.
Ils étaient là au tout début.
Alors ça, c'est une chose que je trouve incroyable, qu'à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui me regardent avec un grand regard. Ben voyons, on ne savait pas ça. On n'enseigne pas cette histoire-là à l'école.
Tout à fait. Non, c'est aussi une histoire d'enseignement et de culture.
Et puis, Denis Martin, ce Mathieu d'Acosta, il n'y a même pas de trace de lui. C'était l'interprète de Mathieu de Champlain.
Oui, c'est vrai.
Il y a une rue à Québec qui porte son nom maintenant, dans la capitale.
Oui, tout à fait. Ça a été reconnu plus tard, hein, parce que l'histoire, évidemment, de comme oublier ce Mathieu d'Acosta. J'aimerais vous faire entendre les réflexions de Bastien sur le mois de l'histoire des Noirs.
On t'écoute.
Ce qui est particulier cette année, c'est que le temps s'est arrêté un peu en raison de la pandémie et des téléphones soi-disant intelligents ont capté ce qui se passe depuis des années en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Il y en a eu d'autres histoires de brutalité policière, de négligence médicale, etc. pour des personnes, entre autres, noires, racisées, autochtones, les personnes transsexuelles. Il y en a tous les jours depuis plusieurs années. C'est jusque-là, le temps s'est arrêté. On l'a vu. Ça a été diffusé sur les médias sociaux. C'est très bien. Mais moi, je rappelle souvent à mes amis, j'ai été à ma première manifestation et marche à Montréal il y a 25 ans quand des policiers ont tué un jeune homme de mon âge qui s'appelait Marcellus François. Je ne concevais pas que, aïe aïe, un jeune a été tué parce qu'il était noir et qu'on l'a pris pour un autre. Où je suis optimiste, je suis un optimiste réaliste. J'aime que tout le monde en parle, que ce ne soit plus que les personnes noires, racisées, autochtones, que ce ne soit plus que les personnes qu'on met au rancard ou qui souffrent de cette discrimination qui en parle.
C'est qu'il en parle très, très bien. Hein?
Ah, mais quelle voix, quelle personne. Mais j'écoute ça, puis j'ai fait l'entrevue un peu avant tout ce qu'on a eu, le dénouement de l'histoire de M. Caméra. Alors, on est, puis je me dis, mon Dieu, on est en 2021, et voilà, le profilage racial existe encore, et il y a encore de la discrimination, et puis ce mois de l'histoire des Noirs, ben, je pense que les gens ont besoin de ce mois-là, du moins, moi, je le dis humblement, là, j'espère que c'est bien compris, mais je pense que les personnes blanches ont besoin d'entendre ça, on a besoin de comprendre, c'est pas si rose. Il y a encore des choses difficiles pour les personnes noires, les personnes de couleur, les personnes racisées, comme utilisait le mot qu'utilisait Steve. Et nous avons une société qui est peut-être pas... quand on parle de racisme systémique, les gens le prennent comme si on traitait tout le monde de raciste, mais c'est pas ça. C'est que la façon que notre société fonctionne, parce qu'elle a été conçue et faite pour et par des personnes blanches, n'est peut-être pas toujours une société qui est juste envers les personnes qui ne sont pas dans les mêmes privilèges que nous, on le sent.
Denis Martin,
oui.
Il y a beaucoup de gens qui confondent avec systématique.
Pardon?
Beaucoup de gens qui confondent systémique avec systématique.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas du tout ça. Moi, là-dessus, moi, je suis prêt à le dire que la grande majorité des gens ne sont pas racistes. Ils ne veulent pas être méchants envers les autres, mais parfois, on ne se rend pas compte que le système n'est peut-être pas favorable vis-à-vis les gens qui viennent avec d'autres, moins de privilèges que nous, on a.
Il y a aussi la culture, hein, Denis Martin.
Oui.
Parce que ce qu'on n'apprend pas, on ne le sait pas. Donc, des moments où on va émettre des paroles qui peuvent être blessantes pour l'autre, on ignore complètement qu'elles sont blessantes puisqu'on n'a pas appris. Que c'était blessant. Donc,
parce qu'on n'a jamais été dans la situation.
Oui, aussi, on n'a jamais été dans la situation, mais je veux dire, ça peut s'apprendre aussi. Ça peut s'apprendre déjà à l'école. Hein,
Moi, la base je peux vous raconter, j'ai vécu une fois dans ma vie où j'étais vraiment dans une situation très minoritaire. Je suis allé, j'étais au Mali, dans des familles, et puis j'étais la seule personne blanche dans tout le village. Et on était assis à la table, Et je voyais le regard des enfants vis-à-vis moi. Puis là, je me suis dit, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ils me regardaient. Ils ne comprenaient pas du tout comment ça se fait que j'avais la peau aussi pâle que ça.
Ils venaient de toucher?
Il me touchait, oui. Et moi, ça m'a touché dans tous les sens du mot. Mais ça m'a fait comprendre que, ben voilà, tout à coup, je devenais une personne blanche. J'étais tout à coup une personne différente parce que j'arrivais dans un milieu où c'était moi la minorité.
Oui.
Bon,
oui.
C'est sûr que j'ai pas vécu la discrimination qu'ont vécu les personnes racisées, les personnes noires, les personnes de couleur au Canada ou aux États-Unis. C'est autre chose.
Mais... Ah ben oui, là, c'était la différence dans son joli côté, quoi.
Ah
dans
oui,
son côté
dans
tendre.
Côté. Mais là, je comprenais c'était quoi d'être différent, mais pas. C'est sûr que j'ai pas vécu la discrimination que beaucoup de personnes noires vivent. Et je le dis avec toute bienveillance et humilité, je ne suis pas une personne noire, je ne peux pas parler au nom des personnes noires, mais je pense que je comprends un peu par où les gens ont passé, puis je m'ouvre à ça. Puis je pense que c'est un peu ça, le mois de l'histoire des Noirs. Je pense que c'est pour les Blancs. C'est pour que les Blancs comprennent un peu mieux c'est quoi le...
Oui, il a complètement raison.
Oui. C'est bien de signaler comme ça.
Mmh. Puis ouais. D'en parler, puis de voir ce qu'il y a d'autre. Bah, toi, tu as vécu la discrimination d'une autre façon.
La discrimination, moi, je l'ai vécue en tant que gay, oui.
Voilà, c'est ça.
Oui, puis tu sais, j'ai vécu la violence, la discrimination violente aussi, j'ai compris ce que c'était.
Tu as eu déjà comme une petite idée, c'était pour terminer là-dessus, mais tu as déjà aussi eu comme une petite idée de la violence qu'il peut y avoir quand on te considère pas comme les autres.
Voilà. Espérons que tout ça, qu'un jour les choses vont s'améliorer. Oui. Mais ça va prendre plusieurs mois de l'histoire des Noirs.
Fulgence, il n'est pas sûr. Mais bon, merci beaucoup, Denis Martin, d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure.
Merci, Denis Martin.
Et puis, remercie Steve Bastien pour nous, en tout cas. Je l'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ce qu'il est.
Moi aussi, je l'aime beaucoup.
Tu lui diras. Ouais. À bientôt.
D'accord. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Alors restez avec nous dans la prochaine demi-heure, bien on continue à en parler, alors avec un autre œil si on peut dire, avec Laurent Maurice Lafontan, c'est ça Fulgence?
Oui, on va parler de films, des arts, dans le milieu noir,
LGBTQ+, afro.
Afro.
Restez avec nous, à tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
turn away from the night of day and the tears we have to cry.
Barry Gibbs et Alison Krauss, Too Much Even. Ouais. Quel beau classique.
Oh là là, oui. Ah ouais. Extraordinaire.
Extraordinaire. Avant de vous laisser la parole à notre invité qui est déjà au téléphone, oui. J'entends son téléphone qui grinche, qui clignoche là-bas. On va le recevoir là. Il s'agit bien de Laurent Maurice.
Oui.
Il est là, il est tout prêt. Attends, je vais.
Laurent Maurice Lafontant.
Lafontant, attendez, est-ce que je vous présente un peu d'abord avant de vous dire bonjour et vous laisser la parole. On a raté le rendez-vous la semaine passée, on se rattrape. Voilà, il va nous parler de Laurent, le président de la fondation Massi Madi. C'est bien prononcé, hein?
Oui, c'est bien ça.
Voilà.
Festival Massi Madi.
Massi Madi, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et du 13e festival des films et des arts LGBTQ+, Afro Montréal. C'est gratuit, ça va se passer en web, sur le web. C'est du 12 février, ça a déjà commencé, jusqu'au 12 mars. Ne dites pas, non, vous avez encore du temps. Oui, mais ne ratez pas, ça va tellement vite. Bonjour Laurent.
Oui. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Fulgen.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Alors, vous êtes
merci
en
train de m'accueillir.
Oh non, c'est la moindre des choses. Ouais, pour ce 13e festival, il ne fallait pas qu'on rate. Ça existe depuis 2009. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Massi Madi, cette fondation?
Donc, Massi Madi, c'est un festival de films et des arts LGBTQ+ afro qui existe depuis 2009. Et on a lieu dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs.
Oui.
Et le but, c'est de parler des réalités de ces communautés qui sont méconnues et qui ne sont pas abordées généralement dans la société. Et aussi, on veut donner une place dans la culture, étant donné que le mois de l'histoire des Noirs célèbre les cultures africaines, caribéennes, toutes les cultures noires à travers le monde.
Oui.
On veut que ces communautés-là aussi soient célébrées et aient leur place.
Oui.
Comme ayant contribué à ces cultures-là également. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce festival d'art, parce que aussi, les arts, ça permet... c'est un vecteur. Nous croyons que les arts sont un vecteur de changement social.
Oui.
Et aussi permet de créer des ponts entre diverses communautés.
Mais Laurent, pourquoi est-ce que vous le faites seul? Vous le faites seulement, ou bien pourquoi vous le faites durant le mois de l'histoire des Noirs?
Au fait, le festival a lieu pendant le mois de l'histoire des Noirs,
oui.
Mais en fait, on peut avoir d'autres activités au courant de l'année.
Oui.
Et pourquoi on a lieu spécifiquement dans le mois de l'histoire des Noirs, comme j'ai dit, et généralement, mais pas généralement, l'homosexualité, tout ce qui est la diversité sexuelle est tabou dans les communautés noires. Donc, au départ, c'était dans le but vraiment de que les personnes LGBT prennent leur place dans ce mois de célébration, dans le mois d'histoire des Noirs, pour créer un sentiment d'appartenance. Parce que les personnes LGBT dans les communautés noires ont aussi vécu une forme, et on a essayé d'effacer leurs histoires et leurs contributions aussi dans le mois d'histoire des Noirs. Mm-hmm. Tout comme le mois d'histoire des Noirs existe pour reconnaître les personnes noires, la contribution des personnes noires en général à l'histoire de l'humanité et à leur contribution dans le monde et dans la société.
Oui, plus particulièrement en Amérique du Nord.
Oui. Mm-hmm. Donc, exactement. Donc, les personnes queer, on a voulu aussi accentuer leur place. Mais cela ne veut pas dire, effectivement, que c'est uniquement dans le mois d'histoire des Noirs que tout ça doit être célébré. Oui. C'est une façon de l'accentuer davantage pour oui. qu'au courant de l'année, les gens puissent s'en rappeler et prêter attention et ça, à cette réalité.
Surtout que le festival va jusqu'au 12 mars. Voilà.
Oui.
Voilà, ça veut dire que ça peut se passer en dehors du mois de février.
Oui, mais sinon, notre fondation aussi, on fait des activités aussi en été dans le cadre de la fierté. Dans le cadre de la fierté aussi, c'est une façon d'apporter plus de diversité dans la communauté LGBT. Donc, oui, on a lieu au courant de l'année aussi.
Oh, dans ce cas, il va falloir que vous repassiez nous voir dans le courant de l'été.
Oui.
Les activités que vous allez organiser. Bon, dites-nous, au fait, les films, ce festival, ce 13e festival des films et des arts, ça va être le premier sur le web.
Oui.
Comment ça s'est passé?
C'est notre plateforme. Pardon?
Comment ça s'est passé, les préparatifs? C'est pas facile. Quand on fait un truc, quelque chose comme ça pour la première fois.
Non, c'était pas facile. C'était la première fois qu'on allait virtuellement. Il y a l'avantage virtuel que les films vont durer plus longtemps. Parce que généralement, notre festival, ça dure 10 jours.
Oui.
Mais vu que c'est virtuel, donc on n'a pas de salle à payer, donc on a pu garder les films plus longtemps.
Mais c'est vrai
que j'ai pas du tout pensé à ça.
Et puis toucher plus de monde aussi.
Oui.
Oui, également, puisque ça couvre le Canada.
Oui.
Et aussi, je
le monde entier, attention, le monde entier peut se brancher.
Non, et le Canada, parce que les films ne sont pas accessibles en dehors du Canada pour des questions de droits d'auteur, c'est limité au Canada, parce que ça pourrait aussi contrevenir à... ajouter plus trop de concurrence avec d'autres festivals.
C'est bien de le préciser, voilà. C'est bien de le préciser.
Il y aurait des choses à payer après.
Donc c'est...
Exactement, c'est ça. Donc ça peut coûter plus cher si on veut atteindre plus l'international. Oui. Donc, mais cela dit, effectivement, le fait que ce soit virtuel cette année, tout le côté technique était de notre côté. Donc ça a dû demander d'innover beaucoup. Parce qu'avant, quand on louait des salles, mais tout l'aspect technique, c'est la salle qui s'en occupait.
C'était la salle qui s'en occupait. Oui, effectivement, c'est là où je voulais en venir. Comment étaient les difficultés que vous avez rencontrées? Parce qu'il fallait avoir une équipe technique bien.
Exactement.
Voilà.
Pour l'équipe technique, ça a été tout un défi pour mettre les films en ligne. Mais on a profité de l'occasion aussi pour que notre site Internet soit quand même assez tech, c'est maintenant un répertoire. On va répertorier qui met tous les films qui abordent les thématiques LGBT afro, même ceux qui ne sont pas projetés à Massimadi. Donc les gens qui cherchent ces films-là pourront maintenant... C'est une forme de catalogue, de librairie, que les gens pourront savoir que ces films-là existent. Et à travers notre site, on pourra les diriger vers d'autres plateformes où ils peuvent les acheter, les louer. Mm-hmm. Et avec ce nouveau site web qu'on a aussi, qu'on a profité de l'occasion pour l'améliorer, on va mettre à jour aussi tous les autres films des précédentes éditions.
Oui.
Même si on ne pourra pas les voir directement, mais cela dit, les gens pourront voir que ça existe ou pourront aller les chercher ailleurs.
Oui,
donc oui, ça a créé beaucoup de problèmes, mais de défis techniques, je dirais, parce que ça a eu des défis techniques. Donc on a profité de ça aussi pour jouer à notre avantage.
Dans ce Massimadi, 2021, c'est 7 longs métrages, 23 courts métrages, une web série documentaire, fiction et cinéma expérimental.
Wow.
Voilà, ça c'est j'ai bien envie moi aussi de découvrir. Et puis il y a pas mal de pays qui sont représentés. Il y a 9 pays qui sont représentés.
Oui, on a des films du Brésil, des États-Unis.
Attends, Laurent. Avant d'aller dans la liste de ces pays qui sont représentés, on va faire une petite pause musicale.
D'accord.
Voilà, il faut vous permettre de souffler un peu. Et puis, on revient sur les différents films et puis les différents pays qui sont représentés durant ce 13e festival Massimadi.
D'accord.
J'ai longtemps cherché dans tes gestes flous, tes actes manqués. Il ne reste rien de nous, même pas de sourires forcés que nos cœurs qui se nouent à chacun des regards échappés. S'il a tourné les pieds, déjà trop tard. L'homme est étranger.
mallette, l'étranger. Alors, Laurent.
Oui.
Merci d'être toujours là avec nous. Je me suis dit, faut pas que la lutte soit coupée. Alors, on va revenir sur les différents pays qui sont représentés, les 9 pays représentés.
Oh, oui, non, il y a plusieurs pays représentés, que ce soit du continent africain, je disais du Brésil, de l'Europe. On a aussi des films des Antilles avec Porto Rico. On a un film de Finlande. Donc, oui. On essaie de. En fait, la raison de ça, on essaie de montrer la diversité au sein des communautés noires. On essaie de ne pas limiter ça non plus à l'Amérique du Nord.
Non, oui, parce que les Noirs sont.
Que généralement, l'influence aussi.
Les Noirs sont partout.
La communauté noire aux États-Unis est très forte. Donc, pour nous, c'est important que nos films soient diversifiés à ce niveau-là.
Oui, oui. Même, tu vois même ici l'Australie qui est représentée.
Oui, effectivement. Oui, il y a un film qui se passe en Australie, effectivement.
Oui, la Finlande, l'Italie, la Namibie, le Brésil, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France.
Bon, en effet, c'est vraiment.
C'est pour ça qu'il y a des communautés noires, au fait. Il y a des communautés noires un peu partout à travers le monde.
C'est vrai, c'est vrai. Les communautés noires sont partout.
Même si certains sujets peuvent se rejoindre, comme le racisme, l'homophobie, il y a quand même des diversités dans la manière dont c'est véhiculé et dans la manière dont c'est vécu dans les cultures aussi.
Dans les différentes cultures.
Ouais. Oui, c'est ça aussi. Ben, ça nous permet d'apprendre, en tout cas, en regardant ces films, ça nous permet d'apprendre quelle en est la culture et comment on vit dans ces pays différents, quoi.
Exactement. Et aussi parce que ça reflète aussi la diversité des communautés noires qu'il y a aussi à Montréal, parce qu'à Montréal, les communautés noires viennent un peu de plusieurs pays, de plusieurs régions. Donc, effectivement.
Oui. Et quels sont les thèmes, quelles sont les thématiques qui sont abordées dans ces différents films-là?
Mais comme il y a plusieurs thématiques, il y a des films d'amour jusque dans la catégorie tenderness et tendresse exquise. Là, on parle que des relations romantiques, amoureuses. Oui. Il y a des films plus militants aussi, comme Your Mother's Comfort, qui montre la situation des femmes trans au Brésil sous le gouvernement de Bolsonaro, qui est quand même un gouvernement de droite. Il y a des films aussi qui abordent la thématique des personnes trans. On a beaucoup de films trans et cette année. Donc, dans deux courts-métrages qui abordent la thématique des personnes trans en prison, avec toute la question de est-ce qu'une personne trans doit aller dans
la prison des femmes ou la prison des hommes, c'est ça?
Oui, en fonction de leur sexe assigné ou bien en fonction de comment ils s'identifient eux-mêmes. Donc, il y a des films qui abordent ces questions un peu plus politiques et sociales. Il y a aussi des comédies, comme on a Monsieur qui a une comédie musicale. On a beaucoup de films sur la thématique de la musique avec Keyboard Fantasy qui raconte l'histoire d'un artiste qui a même vécu à Montréal et qui a été à McGill dans les années 60. Donc ce film est un bijou parce que ça nous permet de plonger dans la réalité de Montréal dans ces années-là, entre le racisme et l'homophobie. Et en même temps, ce film-là est un message d'espoir aussi parce que c'est un artiste qui travaille depuis les années 80, mais qui n'était pas connu, et puis qui a connu seulement le succès dans les années 60, et quand il a eu 70 ans.
Ouh là là!
Oui,
extraordinaire!
Et qu'il a fait une tournée. Donc oui, on a trouvé ce film-là extraordinaire, et puis ça reflète bien notre thématique de résistance qu'on a cette année. Notre thématique de résistance qui se veut une thématique pour envoyer un message d'espoir aux gens, surtout avec la pandémie et puis toutes les questions raciales qui a eu lieu.
Oui.
Donc, c'est pour envoyer un message d'espoir pour dire en fonction des meilleurs jours. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi des films qui reflètent cet espoir-là. On a choisi des films qui ne tournent pas trop autour de la tragédie ni des drames. Donc, oui, des films qui abordent des enjeux sociaux importants, mais avec une touche d'espoir quand même.
Ouais.
Ah. Ben, c'est très éclectique, on peut toucher à tout là-dedans.
Oh, tu m'as sorti le mot de la bouche.
C'est vraiment très intéressant de pouvoir le visionner comme ça, parce qu'il y a tous les choix, ce qui fait que si on n'a pas envie de voir un film politique, eh ben, on le voit autrement. Si on a envie au contraire d'en voir un et de parler de certains sujets qui sont brûlants, eh ben, on peut le voir aussi. C'est bien.
Oui.
Bravo.
Donc, c'est ça.
Et concernant l'exposition, on s'expose du 4 février au 27 mars. Oui, c'est datative, ça, quoi, ce que nous transmettons. Ça parle de quoi? Exposition présentée par Massinadi et Nigra Luventa à Never Apart.
Nigra Luventa, oui. Ce sont deux artistes canadiens qui résident au Canada. Un artiste de Toronto, Cyrus Marcus Wire.
Oui.
Et Yanis, qui vit à Montréal, mais qui est d'origine gabonaise.
Oui.
Donc, tout d'abord, on a voulu, c'était important pour nous d'avoir un artiste. de mettre un artiste francophone et anglophone pour faire le pont entre les deux. Et les deux, en fait, parlent aussi reflètent aussi la thématique de la résistance. Par exemple, Cyrus Marcus Royer a une vidéo d'installation qui s'intitule Ancestors, Do You Read Us? Oui. Comme ancêtre, qu'est-ce que vous nous entendez? Et ça projette des communautés noires dans le futur et qui envoie un message à des communautés noires actuelles pour leur assurer que leurs luttes actuelles ont fini par porter fruit dans le futur. Et donc, en même temps, on a aussi l'exposition de Yanis qui lui, replonge dans le passé précolonial des spiritualités africaines de l'Afrique précoloniale où les personnes non-binaires et de la communauté LGBT, qu'on peut dire, avait une place dans ces formes de spiritualité. Donc, c'est une manière aussi de faire connaître cette histoire-là, parce que maintenant, elle est quand même très méconnue de nos jours, et l'homophobie est principalement véhiculée à travers les religions chrétiennes ou l'islam. Donc, c'est une façon de remettre de l'avant certaines spiritualités africaines, de pouvoir l'adapter aux réalités contemporaines, et pour montrer aux personnes et aux personnes noires qu'ils ont toujours eu une place dans leur communauté, même dans le passé aussi, que l'Afrique n'est pas forcément le continent homophobe et culturel, comme on veut le faire croire non plus.
Mais c'est un apprentissage pour tout le monde.
Exactement, mais oui.
Pour les personnes blanches aussi, d'apprendre ce que c'est, comment ça s'est passé. Il y a des choses qu'on a trop ignorées. Donc.
Parce qu'il y a l'Afrique du Sud, par exemple, où le mariage gay a été même... Légalisé avant beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs.
Oui.
Il faut pas dire, c'est pas tous les pays en Afrique qui jettent la pierre aux gays dans les rues.
C'est bien justement qu'il y ait un festival comme ça pour le montrer.
C'est ça. Ouais, pour terminer rapidement là, de toute façon, tout ce qu'on vient de se dire, mais à la suite du programme, on le trouve sur votre site massimadi.ca.
Oui.
Il y a tellement, c'est tellement riche. Le rire en couleur, après l'humour, c'est l'amour, speed dating du dimanche 21 février. Et puis les mots sur les mots. Les mots M-O-T-S et puis sur les mots M-A-U-X. Durant tout le mois de février, sous souvenir de qui nous sommes, des ateliers d'art thérapie destinés aux afro-descendants noirs, queer, trans et non-binaires. Merci pour ce beau programme, Laurent.
Mais merci à vous.
Et puis, ça a été très intéressant en tout cas, oui.
Ah oui, oui. Merci. N'hésitez beaucoup. Pas après le festival, venez nous faire le compte rendu. Hein.
D'accord.
<Ouais. rire> Merci beaucoup. Et bon festival à vous et au plaisir de vous réentendre.
On vous souhaite une belle soirée.
Merci.
Au revoir.
Belle soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir.
Au revoir. C'était Mara Tremblay avec la pièce Les Aurores. On a la fin de l'émission comme ça.
Tu sais quoi, Fulgence, moi j'ai appris des choses aujourd'hui.
Oui.
Tu vois, on en parlait justement pour dire que ça apprenait à la communauté blanche des choses sur la communauté. Non, moi j'en ai appris aujourd'hui, peut-être pas toi. Et peut-être pas certaines personnes qui nous écoutent, mais en tout cas, j'ai trouvé cette émission très intéressante.
Oui, parce que
qu'elle m'a ouvert voilà.
Ce quoi on a parlé aujourd'hui, ça ne s'enseigne pas dans les écoles. C'est ça aussi le problème.
Oui,
oh, ouais.
C'est ça, ça fait partie aussi de l'enseignement qu'on devrait faire, mais je trouve ça passionnant d'en discuter parce que ça nous ouvre des horizons différents et surtout le même sujet vu de deux manières différentes, avec Denis Martin d'ailleurs qu'on remercie, un peu, et Steve Bastien bien
avec
sûr,
Steve Bastien.
Qu'on remercie beaucoup.
Et le président de la fondation Massi Madi, je ne vais pas me tromper de nom, Massi Madi, Laurent Maurice Lafontaine, on lui dit merci,
beaucoup
et bon festival.
Et en tout cas, c'était très complémentaire, excuse-moi.
Oui, les deux se joignaient.
C'était très intéressant.
Et pourtant, ce n'était pas entendu sur ça, hein.
Oui, c'est vrai. Ça a été une de ces synchronicités absolument magnifiques qui peuvent exister dans la vie.
Ouais.
Alors, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci Maurice Bolduc pour les musiques. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se revoie demain ?
Oui, mais il ne faut pas oublier de... Il ne faut pas oublier de rappeler que nous sommes rediffusés, l'émission est rediffusée
mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 5h du matin.
Voilà.
N'oubliez pas d'aller nous écouter.
Pour les couches tôt,
le couche-tard,
les lève-tôt.
Bonne soirée à vous, à bientôt.
Au revoir, à demain.